Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Cette année encore, cette saison, les Français ont acheté près de 20 millions de chrysanthèmes.
Et c'est pourquoi il est possible d'affirmer aujourd'hui que les jardins les plus fleuris sont les cimetières. Le chrysanthème a été choisi pour orner les sépultures pour la date de sa floraison qui correspond à la Toussaint célébrée le 1er novembre et à la fête des morts le 2. Mais c'est véritablement au lendemain de la guerre 14-18 qu'il est le plus employé quand le président Raymond Poincaré ordonne que soit fleuri le 11 novembre tous les monuments érigés à la mémoire des soldats tués sur le front.
Oui, et cette fleur devient alors la fleur des veuves, la fleur des tombes.
C'est ainsi qu'on l'appelait effectivement, d'où sa sinistre réputation. Et cela est dommage, car certaines variétés de chrysanthèmes sont véritablement superbes.
Et depuis quand est-il possible d'apprécier cette fleur en Europe?
Le chrysanthème est né en Chine et il y est apprécié depuis 2000 ans. Au Japon, il est cultivé depuis des siècles et il symbolise la beauté, la joie et l'éternité. Pour cette raison, il est le symbole de la famille impériale et de la nation tout entière. Dans ce pays, toujours le Japon, deux plantes sont particulièrement célébrées car elles marquent le changement des saisons. Le cerisier qui annonce le printemps et le chrysanthème l'automne. C'est donc de ce pays que les premiers chrysanthèmes sont introduits en France aux alentours de 1770. Mais voyez-vous, ils sont boudés des jardiniers et des horticulteurs et intéressent à peine les botanistes. Et
jusqu'à ce jour de 1789, quand un certain Paul Blancard revient de Chine. Qui est Paul Blancard?
Eh bien, c'est un homme qui est né à Marseille en 1741. Il est capitaine de marine. Quand il revient dans son pays, il a pris dans ses bagages 3 pieds de chrysanthème de 3 couleurs différentes. Mais les conditions de navigation sont terribles. L'eau manque à bord et un seul pied parvient à survivre et il est de couleur pourpre. D'abord présenté aux botanistes marseillais, ce chrysanthème est très vite exposé au Jardin des Plantes de Paris pour être étudié et surtout multiplié. Il plaît beaucoup. Et ainsi, il va se retrouver les années suivantes dans tous les jardins privés et publics et les vitrines des fleuristes. Paul Blancard est mort en 1826. Il repose dans le cimetière d'Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône.
Et sur la tombe de Paul Blancard, il y a écrit « À cause d'une fleur, on se souvient de lui ».
Et cette année encore, du moins je l'espère, la ville d'Aubagne fleurira sa tombe en y déposant, vous vous en doutez, un pied de chrysanthème pourpre.
Évidemment, le chrysanthème pourpre, le ou la chrysanthème,
le chrysanthème. Non masculin.
Très bien. Vos conseils, Alain Baraton, aux questions et les réponses aux questions des auditeurs. Gilles, par exemple, vous demande « Pourquoi les feuilles du petit chêne sur mon balcon sont-elles trouées, blanchies ou roussies ?»
Tout simplement parce que nous sommes en automne et qu'en automne, la plante amorce sa dormance, ce qui signifie que le chêne ne va pas s'amuser à lutter pour rien contre des maladies, des virus, des bactéries, voire des champignons, alors qu'il va bientôt perdre ses feuilles et se débarrasser donc de ses supports qui lui permettent de vivre. Donc le fait qu'elle soit blanche vient souvent de l'oïdium. L'oïdium est un feutrage, un champignon, maladie cryptogamique, qui n'a aucune espèce d'importance pour le chêne quand il attaque en automne, car donc en ce moment même d'ailleurs, les feuilles sont en train de tomber. Pareil pour les trous, cela peut être des champignons, cela peut être des insectes, mais la plante préfère maintenant commencer à stocker la sève dans son écorce et dans son bois, plutôt que de se préoccuper d'une apparence qui ne va être que provisoire.
Viviane vous demande s'il est réaliste de vouloir redresser un arbre qui penche, puis en fait éviter d'avoir à le couper au passage.
Il est toujours réaliste de vouloir prendre une décision qui empêchera de commettre l'irréparable, de tuer un végétal. Donc oui, on peut toujours envisager de redresser un arbre, alors tout dépend bien sûr de la hauteur et tout dépend des moyens mis à disposition. Si vous avez un pin d'une trentaine de mètres de haut, vous pourrez le redresser, je ne vous dis pas la facture. Si l'arbre est de dimension plus modeste, il vous sera possible de le faire en créant une tranchée à l'opposé de l'endroit, enfin dans la direction où vous souhaitez redresser l'arbre, pour éviter la tension avec la racine bien entendu. Le but étant de permettre à l'arbre de se remettre droit sans le sortir de terre. Donc vous coupez les racines qui risquent de faire malheureusement retenues, mais vous pouvez toujours tenter l'expérience. Et ce sera toujours mieux que de le couper de toute façon.
Paul a une question pour vous. Elle vous signale, Paul, que tous les ans défilent les entreprises qui lui proposent de venir élaguer son tilleul. Or, dit Paul, ce tilleul ne gêne en rien les fils électriques situés à moins de 5 mètres de son sommet. Pourriez-vous, Alain Baraton, rappeler dans quel cas il est utile d'élaguer?
Vous savez, moi je lis souvent les ouvrages qui sont signés Francis Allais, les ouvrages qui ont été signés par les grands noms de la botanique. tous disent, mais ils sont unanimes, que la taille est une technique qui affaiblit le végétal, qui est contre nature et qui épuise vraiment la plante. Je le rappelle qu'un tilleul taillé régulièrement a une espérance de vie de 150 ans, s'il n'est pas taillé 800 ans. Donc on ne taille, on élague un arbre que si la branche gêne, si elle est devenue disgracieuse ou si elle empêche la circulation. Sinon on regarde, on contemple, on n'y touche pas.
Comment préparer le sol d'un potager avant l'hiver? Question de Karine et Olivier. Doit-on retourner la terre? Doit-on l'amender avec notre compost? Est-ce qu'il faut le couvrir?
Alors c'est la grande question. On va vous dire que le labour aujourd'hui est nuisible aux petites bestioles qui sont sous terre. Soyons réalistes, quand on cultive un potager, il faut que la terre soit meuble, donc on bêche, on met le compost bien entendu, qu'on enfouit avec le bêchage, et on évite de le couvrir. C'est jamais très beau de couvrir un potager. Mmh. Un potager, même en hiver, doit être beau.
On va noter ce conseil.
Ben oui.
Un livre pour terminer.
Blé de pays et autres céréales à la paille, c'est publié chez Ulmer, et c'est un très beau livre de Ruth Stegassi et Jean-Pierre Bolognini. Eh bien, c'est tout simplement toutes les graines, toutes les céréales. C'est très intéressant, l'histoire de ces plantes qui ont nourri et qui continuent de nourrir des générations entières.
Redites-nous le titre.
Blé de pays et autres céréales à la paille, et c'est publié chez Ulmer.
Les conseils, les bons conseils de Huggy les bons Baratons.
Oui,
tiens, ce matin, c'est comme ça. Voilà, merci beaucoup Alain Baraton. Et à demain.